17h25 sur Graffiti Urban Radio, on continue dans ce réseau urbain et on va se cultiver un petit peu puisque je vous propose, ce n'est pas l'Europe en direct ce soir, mais nous allons nous cultiver à propos de langue. Vous allez me dire quelle langue parlez-vous ? Eh bien, peut-être l'espéranto ce soir. Je ne sais pas dire bonjour en espéranto, donc je vais dire bonjour en français ou bonsoir à monsieur Stéphane Robert, président d'Espéranto Vendée. Bonsoir Stéphane.
Bonan tagon, Albi.
Eh bien voilà, bonjour. On sait tout maintenant. Il y a avec nous Lucette Lejot, qui est la secrétaire de cette association.
Bonne vesperon.
Eh bien voilà. Et nous avons avec nous Patrice Joly, l'organisateur de l'événement que l'on va retrouver ce samedi. Il est aussi webmaster du site Espéranto Vendée. Bonsoir.
Salut.
Voilà, tout ce que... c'est parfait. Vous allez parler en français un peu après.
Hein. Oui, on va essayer.
Vous savez parler français, c'est bon. Vous allez nous proposer un rendez-vous, c'est ce samedi 24, à partir de 14h, place Napoléon. On va pouvoir faire plein de trucs, on va expliquer tout ça. Moi, je voudrais pour commencer qu'on rebrosse un petit peu l'histoire de l'espéranto, parce que là, c'est l'association Espéranto Vendée. Mais l'espéranto, moi, si j'ai bien compris, on pourrait discuter avec n'importe qui à l'autre bout du monde si on arrive à avoir tous ce même dictionnaire un petit peu. Qui m'explique les bases, hein, l'espéranto, c'est quoi, comment, pourquoi, pour qui ?
Ben, en fait, l'espéranto a été créé en 1887 par Zamenhof, qui, jeune, avait compris qu'il fallait une langue pour que tout le monde puisse se comprendre. Son idée était
c'était
plutôt...
pas bête.
Ben, c'était pas bête. Et son idée, c'était de créer une langue facile à apprendre pour qu'on puisse l'apprendre tous et surtout une langue pacifique. Donc lui, son idée, c'était une idée de paix derrière cette langue. Et il a créé cette langue qui fonctionne très bien. Il y a des gens dans le monde entier qui la parlent, qui la pratiquent. Et ce qui nous permet à nous, espérantistes, de se rencontrer à travers le monde et de voyager, de faire beaucoup de choses ensemble grâce à cette langue.
En évitant d'apprendre une langue à chaque fois dans un nouveau pays.
Ah, tout à fait.
C'est un peu l'idée.
Moi, j'ai déjà fait le Cambodge, le Vietnam. C'est très
avec
compliqué.
Avec l'espéranto.
Avec l'espéranto.
Est-ce qu'on a un chiffre ? Je regarde les autres aussi autour de la table. Hein. Est-ce qu'on a un chiffre du voilà, le nombre de personnes qui sont capables d'échanger avec vous en espéranto ? Est-ce qu'on sait imaginer ça ?
Je vais répondre parce que la réponse, ça dépend si on est du côté espérantiste ou du côté de la police.
D'accord.
On va dire que c'est entre 3 et 5 millions de personnes ouais. qui le parlent relativement bien.
D'accord, donc on peut, voilà, on peut discuter à travers le monde, ouais. C'était bien mon idée de départ. L'association va fêter ses 20 ans, c'est-à-dire qu'avant on ne le faisait pas en Vendée ou on avait quand même quelques personnes qui échangeaient comme ça, peut-être se tourner vers les plus anciens de l'asso.
Bah avant il y avait quelques personnes isolées en fait, qui avaient appris la langue chacune de leur côté. Et en fait, c'est l'arrivée d'Henri Masson qui était en région parisienne, qui a pris sa retraite en Vendée. Et qui pratiquait l'espéranto, lui, depuis les années 70, et qui a eu l'idée de fonder donc, une association en Vendée. Mais on retrouve des traces de l'espéranto en Vendée au début 20e.
D'accord.
Sur Luçon, entre autres.
D'accord. Et alors, retrouver des traces, c'est-à-dire, on a trouvé des petites archives
Oui, voilà, c'est des archives. Il y avait un architecte sur Luçon qui s'appelait Léon Bachereau.
Ouais. Oui, il y avait également Madame Obalski qui enseignait l'espéranto sur Luçon.
À l'époque
Oui, dans les après-guerre et dans les années 50.
D'accord. Donc ça se promène un peu comme ça. Vous êtes combien en Vendée ? Allez, on y va, parce que là, vous allez me dire, vous n'êtes pas 10, hein, vous êtes un peu plus.
Il y a les adhérents et puis ceux qu'on ne connaît pas.
Alors oui, alors les adhérents,
alors,
déjà
les
comme
adhérents,
ça.
On peut
une cinquantaine.
Une cinquantaine de personnes, ouais, c'est déjà très bien. Vous arrivez donc à... Alors, vous apprenez, vous êtes comment ? Vous êtes, comment on vous appelle d'ailleurs ? Les espérantistes ? C'est ça ou pas ?
Oui, c'est le mot plus souvent utilisé, mais bon, ça, je veux dire, l'espéranto n'est qu'une langue, donc
ouais.
En fait, on ne dit pas « je suis francophone », je suis... Voilà, on utilise
cette
langue.
Vous avez cette langue en plus.
On a cette langue en plus qui
est un outil. C'est pas votre langue
d'origine. C'est un outil très, très pratique pour voyager. Moi, je l'utilise principalement pour voyager, d'autres l'utilisent ouais. Sur Internet, d'autres l'utilisent chacun. D'autres l'ont appris simplement parce que c'est une langue et qu'ils s'intéressent aux langues, ouais. Donc il y a...
Mais alors, en Vendée, le fond de ma question, je dirais, vous l'apprenez entre vous, vous faites découvrir des choses en espéranto. Est-ce que vous faites un petit peu comme ce qu'on pourrait appeler les cafés polyglottes, c'est on se retrouve, on discute, on échange, on débranche de nos langues personnelles et on passe à l'espéranto. Qu'est-ce qu'on en fait, clairement ?
Dans notre association, ici. Un samedi par mois, on donne, non pas des cours, mais on se retrouve ensemble et sous forme de jeux, sous forme d'échanges, voilà. On pratique la langue. Après, chacun peut la pratiquer chez soi grâce à Internet. Mmh. Mais c'est vrai qu'un samedi par mois, on se retrouve et on échange ensemble, on joue, on s'amuse, on passe une bonne journée ensemble à utiliser cette langue. On peut utiliser même Skype pour échanger avec des gens à travers le monde entier. Donc c'est très convivial.
On ne dit pas, si on vous rejoint, on ne vient pas pour apprendre. Alors, vous conseillez peut-être d'apprendre un petit peu de son côté et de venir pratiquer. Je regarde tout le monde.
Ouais, mais l'avantage de l'espéranto, c'est que ça s'apprend assez facilement. Ouais. Il y a des cours gratuits sur Internet. Donc il est très facile d'avoir des bases d'espéranto et de pouvoir échanger rapidement. Maintenant, si quelqu'un venait et se rapprochait de notre association, je peux, moi en général, je prends les débutants et je leur donne ces bases pour qu'ils puissent très rapidement échanger. Mais c'est très facile en espéranto à le faire.
Alors, est-ce que c'est si facile que ça ? Stéphane, on en garde sous le pied, je vais demander aux autres. Est-ce que c'est si facile que ça ? Comment vous avez appris ça ? Qu'est-ce qui vous est venu pour vous mettre là-dedans ? Comment ça vient ? Est-ce que c'est l'idée vraiment d'apprendre une nouvelle langue ? On y vient comme ça ?
Alors, si facile que ça, on peut dire que c'est une langue beaucoup plus facile qu'une autre langue à apprendre.
D'accord.
Ça, c'est certain. Mais c'est quand même une langue à apprendre. Donc, y a un cap à passer. Au tout début, on avance très vite. Mais après, si on veut approfondir, si on veut être capable de lire n'importe quoi, si on veut être capable de discuter de choses très variées, profondes, eh ben c'est un travail quand même. Hein. Donc, moi, personnellement, je ne dis plus que c'est une langue facile. C'est
D'accord.
une langue plus facile qu'une autre, qui s'apprend plus rapidement qu'une autre, mais ça demande du travail.
Alors, on a parlé de voyage, mais vous y êtes venu pourquoi ?
L'intérêt, la philosophie,
ouais.
que c'est une langue qui n'est pacifiste, pas dominante, qui est pacifiste, ouais. qui ne cherche pas à en remplacer une autre,
exact.
Mais qui permet la communication. Et moi, personnellement, ce qui m'intéresse aussi, c'est de lire, par exemple. Il y a une grande littérature directement en espéranto,
ouais.
Écrite par des écrivains de tous les pays. Moi, ça m'intéresse. Par
D'accord.
exemple, c'est ce qui m'intéresse le plus, moi.
Eh bien, pourquoi pas ?
En dehors de l'enseignement, ça m'intéresse aussi de l'enseigner.
D'accord. Voilà. Je me tourne vers Patrice Joly quand même, savoir la même question. Est-ce qu'on y vient là au hasard ? Est-ce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a lancé là-dessus ou l'envie de découvrir autre chose ?
Le premier contact, je me souviens pas très bien, mais c'est vrai que on a dû en parler un jour, et puis une deuxième fois, peut-être une troisième fois, et puis c'est vrai que moi, c'est l'idée de langue internationale, d'une langue sans exception.
Parce que c'est beau.
Facile à apprendre.
Sur le papier, c'est magnifique.
Oui.
On pourrait discuter avec tout le monde.
Voilà, c'est
ça. On a 800 ou 2000 ou 3, je sais pas, 10 000 langues peut-être dans le monde.
6 000.
Plus de 6 000, allez, voilà, si on sait les chiffrer. Alors qu'avec une seule, on peut échanger.
Voilà, c'est ça. Et l'intérêt aussi, enfin moi ce que je trouvais bien dans cette idée de langue internationale, c'est qu'elle était neutre, c'était pas la langue d'un pays, et ça permettait de préserver les langues nationales. Quoi.
Ouais. Donc il y a tout ça dedans, et j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur ce que vous allez nous proposer, parce que ce samedi, de 14h jusqu'à peut-être assez tard dans la soirée, on va pouvoir se renseigner d'une part, on va pouvoir échanger avec vous, et on va pouvoir surtout découvrir des choses un petit peu particulières, parce que ça va commencer à 14h jusqu'à 16h sur la place Napoléon, au niveau du dromadaire. Vous allez nous proposer d'écouter le groupe, alors je dis d'écouter, et je dis une connerie, puisqu'on va faire mieux qu'écouter, on va pouvoir chanter.
Tout à fait. Mais le principe, c'est d'essayer de faire chanter les gens. Donc, c'est un groupe qui s'appelle La Campanoille qui va venir, qui va chanter des chansons françaises en espéranto, mais ce ne sont que des chansons très connues de tout le monde. Ça va permettre, on va distribuer des carnets de chants et tout le monde va pouvoir participer, parce que c'est juste pour un bon moment de convivialité. Et tout le monde va pouvoir échanger, partager, et puis voilà.
On donne un exemple, j'en ai trouvé un comme ça, mais les copains d'abord, par exemple, c'est
voilà,
un truc, c'est facile.
Ça en fera partie.
Tout le monde connaît la base, la musique, tout ce qui va avec.
Il y aura les copains d'abord, il y aura du Jacques Brel, il y aura de tout. Enfin,
c'est un karaoké, mais on reprend
géant.
Alors géant, en plus, chorale, tout ce qu'on veut, s'il y a du monde, mais on peut surtout, on connaît l'hymne, on connaît l'air, pardon, on connaît l'air, et il n'y a plus qu'à suivre le texte. C'est comme au mariage, où je ne sais où, on se fait plaisir. C'est une première approche.
C'est une première approche. Et puis, en même temps, il y aura un petit stand qui sera monté par l'association Polyglotte de La Roche-sur-Yon.
Café Polyglotte.
Café Polyglotte de Cécile Charrier. Et ils tiendront un stand parce qu'on participe, nous, en tant qu'espéranto, on participe aussi au Café Polyglotte. Donc, on y va. Pas forcément pour parler en espéranto, ça peut être pour parler en anglais,
en allemand. D'autres langues.
Dans d'autres langues, on échange et puis ça permet d'échanger, quoi. Le but des langues, c'est surtout d'échanger et de connaître les autres. Donc
déjà, alors moi je retiens, hein, 14-16h, karaoké géant, place Napoléon. Moi je le dis comme ça.
Ça
a l'air sympa. À partir de 16h, vous nous proposez d'aller faire un petit tour dans la Roche-sur-Yon.
Dans la Roche-sur-Yon.
De visiter la ville, mais encore différemment.
Voilà, on a organisé un petit rallye petit rallye qui est en espéranto, mais je rassure les gens qui ne sont non-espérantistes, un espérantiste traduira le rallye. C'est un rallye ludique pour découvrir la roche d'une autre manière. Ça dure une heure et demie à peu près, et ça permet ensemble puis d'échanger.
Il y a des petites énigmes,
il y a des
choses
énigmes,
comme ça.
Il y a plein de petites choses, alors je ne dévoilerai rien.
D'accord.
Mais on l'a déjà fait et c'est ludique.
Départ 16h, place du 8 mai. C'est juste au niveau de l'entrée du parking, en face du Fusion Léal. Je vais le dire comme ça, je ne sais pas.
Oui,
derrière l'église.
On va peut-être faire plus simple. Oui, normalement, c'est là-bas
qu'aura
lieu le départ, ça n'aura pas bougé.
C'est ça, on est bon. Ouais. 16h, 20h30, on peut vous retrouver dans le hall du conservatoire. Je me tourne peut-être vers Patrice. On va pouvoir là aussi échanger d'abord en français peut-être pour les novices et puis se renseigner encore une fois un peu comme on le fait là sur la langue.
Voilà, tout à fait. Il y aura des personnes qui pourront accueillir le public et il y aura une rétrospective qui passera en boucle sur écran dans le hall. Pour ceux qui veulent mieux connaître notre association et son histoire, ce sera possible au travers d'un diaporama.
Très bien. Et puis à 20h30, on reste au conservatoire, on descend dans l'auditorium, et cette fois-ci, la Compagnie, le groupe qui était là dans l'après-midi, va nous proposer cette fois-ci leur vraie, peut-être leur composition, je le dis comme ça, je ne sais pas, Est-ce que je dis une bêtise ou est-ce qu'on est sur des reprises en espéranto ?
Alors, on est sur des reprises, mais par contre, c'est un concert exclusivement dédié à Brel.
C'est un concert dédié à Brel,
voilà,
mais en espéranto.
Que des chansons de Brel en espéranto.
D'accord, je suis curieux. J'aimerais savoir, je vous garde encore quelques minutes, ça c'est le programme de samedi, donc 24 septembre, pour les 20 ans de l'association. Aujourd'hui, on en est où par rapport à cette langue ? Je sens que je vais vous gratter un peu, mais on entend depuis des années, cette langue est toujours un petit peu là, il y a toujours des pratiquants, je vous embêtais sur le chiffre tout à l'heure, on est entre 3 et 5 millions de personnes qui tournent autour. Est-ce que de votre côté, vous, là, tous les trois autour de cette table, il y a des idées ? Est-ce que vous avez entendu des choses qui auraient pu bouger un jour autour de cette fameuse langue internationale ? Est-ce qu'il y a des... Alors, peut-être au niveau de l'Europe simplement, de l'Amérique, j'en sais rien. Est-ce qu'il y avait une idée de pousser un peu ce truc ou est-ce qu'on est resté statu quo ? Bon, ils sont rigolos avec leur langue bizarre, mais voilà, je caricature, mais
oui,
on est où, là ?
En Europe de l'Ouest, on va dire, en France en particulier, c'est vrai qu'on nous caricature beaucoup, mais il y a d'autres pays où l'espéranto se développe beaucoup plus. Je vais prendre un exemple tout bête, parce que j'ai sympathisé avec une journaliste chinoise et Radio Pékin International.
Que j'ai rencontré, en plus.
Joya. Ouais. Et qui, donc Radio Pékin International, émet en espéranto, émet dans 64 langues, dont l'espéranto. Et dans le monde entier ont lieu des rencontres d'espérantistes et beaucoup de choses se développent. Moi, je suis allé cet été en Pologne où j'ai participé à une rencontre espérantiste. Et il y a des rencontres qui ont lieu dans le monde entier en permanence. Si vous voulez voyager qu'en espérantouyo, comme on dirait, vous pouvez le faire.
Alors, je vais remettre ma question sur la table, mais est-ce qu'au niveau des instances, je vais prendre l'Europe, hein, non, je vous fais rire, je vous agace. Est-ce qu'au niveau de l'Europe, par exemple, ça serait pas une solution ? Je le fais court, mais on sait qu'au niveau de l'Europe, il y a 28 pays qui comptent quasiment autant de langues. Il y a de la traduction, je crois, si c'est pas 21, 22, 23 traductions possibles quand on est dans les locaux des instances européennes. On aurait une langue comme celle-ci. Moi, je fais l'idéaliste aussi, hein. Je me dis, ce serait quand même vachement plus simple. On éviterait aussi d'avoir des traducteurs dans tous les sens, de s'en mêler les pinceaux. Moi, j'ai assisté une journée, il fallait déjà trouver le bon numéro pour écouter la bonne langue. C'était déjà du sport. Alors, est-ce qu'au niveau de l'Europe, qui est une fédération quand même importante, ce serait pas intéressant de mettre ça en avant ? Je sais pas où on en est là-dessus.
Ben, certaines personnes sont en contact avec le Parlement européen. Certains ministres étrangers parlant espéranto essayent d'appuyer justement cette idée.
Pourquoi pas ?
Mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne bouge pas énormément. Mais il y a des choses qui avancent. Par exemple, les diplômes d'espéranto maintenant sont reconnus, puisqu'on rentre dans le cadre de ALTI, donc les diplômes de langue maintenant se passent différemment.
D'accord.
Et là, c'est reconnu. Et c'est l'université de Budapest qui corrige les examens d'espéranto au même niveau que l'Institut Goethe corrige les examens d'allemand ou Cambridge qui corrige les examens d'anglais.
Donc, on pourrait, c'est-à-dire passer un diplôme d'espéranto, alors un diplôme je ne sais pas lequel, mais un bac... Mais
en fait, ce sont les mêmes diplômes que les élèves passent à l'école,
d'accord.
A1, A2, B1, B2, C1.
Et pourquoi pas ?
Moi, j'ai passé mon C1 d'espéranto au Vietnam et à La Roche-sur-Yon, une partie, et mes camarades aussi, mais...
Donc c'est quelque chose qui a déjà un petit peu bougé. Si ça rentre dans l'éducation, je dirais, dans les bases de certains diplômes, c'est intéressant.
Alors, il y a eu une époque où c'était beaucoup plus rentré. Hein. Il y avait Jean Zay qui avait lancé l'idée de l'espéranto à l'école.
Il a fait l'objet d'une émission il y a une semaine sur Graffiti.
Voilà, donc il avait lancé cette idée. Il y en avait d'autres. Freinet utilisait aussi l'espéranto. Il y a différentes personnes qui s'y sont intéressées et des personnes connues. Hein. Jules Verne s'était intéressé à l'espéranto. Plusieurs personnes. C'est vrai qu'on a du mal à faire bouger les instances pour qu'ils reconnaissent que l'espéranto est une langue très logique. On va dire, on va pas dire facile pour faire plaisir à Lucette. On va dire c'est une langue très logique, c'est-à-dire quand on apprend une règle, il y a 16 règles, une fois qu'on les connaît, il n'y a jamais d'exception. Donc c'est ce qui rend la langue facile.
On peut parler, il me reste quelques minutes, hein, on peut parler d'une langue, alors encore une fois, je ne vais pas utiliser le mot simplifié, mais peut-être moins biscornu que notre français. Déjà, on sait que quand on parle anglais, par exemple, il y a des choses très simplifiées par rapport à nous, tout notre vocabulaire hyper chargé. On peut dire 5 mots pour la même chose. En anglais, on va en trouver qu'un. En espéranto, c'est un peu ça.
C'est un peu ça, en fait, ce qu'a voulu faire Zamenhof quand il parlait 12 langues, et quand il a voulu créer sa langue, il a voulu prendre ce qu'il y avait de plus commun dans toutes les langues. Donc il est revenu aux racines des langues. Mm-hmm. Et ce qui permet à un Allemand d'apprendre aussi vite l'espéranto qu'un Français ou qu'un autre. Alors, il est vrai que les Chinois, par exemple, ou les Vietnamiens n'ont aucun rapport avec cette langue, sauf que, par exemple, les Chinois aiment bien l'espéranto parce que c'est une langue agglutinante. Donc, ça utilise également des notions que les Chinois comprennent bien.
Oui, parce qu'il y a des débuts, des fins qui reviennent.
Pour exprimer quelque chose, ouais. On peut coller plusieurs racines pour exprimer une idée, quoi.
D'accord. On demande un exemple, évidemment. Je ne sais pas, est-ce que vous vous dites une phrase et quelqu'un nous donne le résultat de cette phrase pour illustrer quelque chose de peut-être plus proche de nous, quelque chose qu'on va très vite comprendre, qu'on pourrait même comprendre comme ça sans traduire.
Sans être espérantiste.
C'est possible ou pas?
On peut dire « Yes, mi estas Stefano, kai mi estas nun via amico, kai mi parolas ce graffiti radio, urban radio. »
Voilà.
Voilà.
À quelque chose près, on a compris. Hein. Je me tourne vers Thierry, hein, qui bigle depuis tout à l'heure.
Je suis Stéphane.
Il est encore là.
Je suis votre ami et content d'être sur Graffiti. Ou...
À peu près, oui, c'est ça. Voilà. C'est bien, l'idée est bonne.
Je vais dire à Lucette, c'est finalement très simple. Non, c'est
pour un premier contact.
Ça va, c'était efficace. On va le dire, hein, on peut se tourner vers vous, donc si on a des questions, évidemment.
Ah, tout à fait. Ouais.
On vient ce samedi, ça c'est une première chose. Je me tourne vers Patrice. Samedi, c'est pour venir vous rencontrer, venir voir des choses. Et si on veut vous retrouver tout au long de l'année, est-ce qu'il y a des rendez-vous où on vient vous voir? Est-ce qu'on a un lieu, quelque chose? Et sinon, donnez-nous quelques contacts pour les curieux.
Pour les courrieux, pour faire simple, Patrice va pouvoir en parler puisqu'il s'occupe de notre site internet. Et là, il y a tous les contacts.
Oui, déjà, on peut visiter notre site où il y a une feuille pour... il y a une page pour nous contacter.
Une feuille. Une page.
Une page, pardon. Donc, c'est esperanto-vendée.fr.
.fr. Très bien. Et pas point... qu'est-ce que ça pourrait être .es, c'est l'Espagne
.eo.
.eo. Très bien. Pourquoi pas. Le site internet pour toutes les infos, je le disais, est-ce qu'il y a un rendez-vous régulier? Vous avez parlé d'un rendez-vous.
Oui,
est-ce que les gens peuvent s'arrêter voir?
Le premier samedi du mois,
voir,
en général. Voilà. En général, c'est toujours... On essaye de garder cette date. C'est le premier samedi du mois.
À partir de novembre.
À partir de novembre,
ouais. Et on vous retrouve où?
Maison de quartier des Forges.
Maison de quartier des Forges.
Voilà, soit dans l'atelier, soit au Café Club.
Au Café Club ou à l'atelier. Très bien. Merci, messieurs, dames, pour l'Espéranto Vendée, donc, qui fête ses 20 ans ce samedi 24 septembre. L'Espéranto tout court fête bien plus que ses 20 ans, on en parlait. N'hésitez pas à réécouter cette émission www.urban-radio.com si vous voulez reprendre quelques infos qu'on a données par-ci, par-là. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Graffiti et puis continuez, faites diffuser l'Espéranto, c'est un plaisir. On se retrouve, nous, dans...